Je voulais simplement présenter le fait qu'on était quatre aujourd'hui. En fait, on est sept à faire la recherche dont on va vous parler d'un morceau simplement, puisqu'on travaille sur quatre terrains différents. On va simplement vous présenter un terrain. Aujourd'hui, c'est une recherche qui est en cours. C'est une recherche qu'on mène pour le programme Concertation Décision Environnement, ministère de l'écologie. Et donc, si on est quatre aujourd'hui, en fait sept, puisqu'il y a aussi Raoul Marquez, Laetitia Auvernet, et Anne-Sophie Ringer qui participe de cette recherche, c'est parce qu'on a répondu à cet appel d'offres, puisque au départ c'est un appel d'offres, en hors statut, puisqu'on a deux collectifs, une coopérative de recherche et une association de recherche pour nos collègues espagnols. Voilà, donc j'en viens à notre propos d'aujourd'hui. Alors, notre communication va s'attacher à rendre compte des modalités de résistance à la gouvernementalité écologique dans la vallée du squat Can Mazdeu à Barcelone, en suivant plus particulièrement leur dynamique d'ordinarisation et de communalisation. Alors, la gouvernementalité sera donc ici interrogée en creux, et c'est moins aux formes actuelles de conduite, hein, comme on dit Foucault, que nous allons porter notre attention qu'aux formes de contre-conduite, hein, c'est-à-dire de modalités de lutte et de résistance qui les accompagnent. Il s'agit pour nous de prendre acte des propriétés de réversibilité et de transformation de la gouvernementalité et de suivre Foucault lorsqu'il indique que la politique n'est rien de moins, rien de plus que ce qui naît dans la résistance à la gouvernementalité, le premier soulèvement, le premier affrontement. Alors, étant entendu que du point de vue de la sociologie pragmatique, la participation des citoyens à la définition des politiques environnementales a déjà était bien décrite, analysée et située par l'étude des controverses et des processus d'alerte, ainsi que par la sociologie pragmatique des sciences, nous proposons de saisir cette question en bordure, toujours en pragmatiste, hein, mais en bordure de ce qui est généralement travaillé par les sociologues pragmatistes, sous le motif de l'expérimentation radicale. Hypothèse donc faite pour nous que ces expérimentations investissent les participants de capacités qui ne se limitent pas seulement aux capacités argumentatives. Il y a bien des forums, des espaces de parole ou des assemblées pour prendre la parole sur le vivre ensemble et définir un monde commun, mais la définition de ce monde commun est d'abord mise à l'épreuve du vécu du vieux dans l'ordinaire de l'expérience mondaine, pour reprendre la belle formule d'Isaac Joseph. Notre propos prend appui sur une recherche en cours menée dans le cadre du programme Concertation Décision Environnement du ministère d'Écologie, recherche qui vise globalement à documenter l'institutionnalisation croissante des procédures de concertation par l'entremise de formalisation expérimentale. Donc il s'agit pour nous de montrer comment les démarches de concertation sont partie intégrante des modalités par lesquelles le problème environnemental est redéfini et pris en charge depuis les politiques publiques, en nous attachant parallèlement ou conjointement, dans le cas qui va nous intéresser aujourd'hui, à des initiatives infra-institutionnelles ou associatives qui échappent à ces dispositifs. Je ne vous présente pas les autres terrains, je peux vous dire rapidement qu'on travaille aussi sur le processus de concertation en cours dans l'écoquartier qui est en train de se mettre en place à Montreuil. On travaille aussi sur un autre squat en France, à Toulouse, qui s'appelle les Pavillons Sauvages. Et donc à Barcelone, on vous présente le squat Can Mazdeu, mais comme on va essayer de vous montrer, qui prend, qui prend sa place dans un parc naturel qui est en cours de mise en œuvre, qui s'appelle le parc de Collserola, dans lequel il y a aussi, alors ils ne disent pas concertation, ils disent participation citoyenne, mais il y a aussi un processus plus institutionnel de concertation qui est mis en place. Donc à la fois on étudie ces processus infra-institutionnels, mais aussi la concertation à proprement parler. S'agissant des concepts de développement durable et de ville durable, nous allons, en sociologue de la critique, suivre ce qu'en disent, mais surtout ce qu'en font les acteurs. Nous prenons le parti de nous intéresser à des acteurs qui ne se situent pas au seul plan de la critique ou d'une justification morale, mais qui proposent précisément de travailler à leur accomplissement pratique par l'expérimentation in situ. Alors, la focale, on va aujourd'hui la porter sur une situation spécifique, celle du squat Can Mazdeu, qui est un projet qui s'inscrit à la croisée d'une démarche de concertation instituée et d'un projet radical d'expérimentation. Donc le squat Camp Maseu se situe dans la montagne de Corcerola, à la frontière ouest de la ville de Barcelone. Camp Maseu est un projet politique et de vie collective qui a vu le jour en décembre 2001, lorsqu'en plein essor du mouvement dit anti-globalisation, un groupe de militants décide d'occuper une bâtisse abandonnée, une ancienne maison paysanne, sur le flanc de la montagne, pour y organiser des journées écologiques internationales. À l'issue de ces journées, le projet se poursuit dans l'élaboration d'un projet collectif plus pérenne, centré sur l'agroécologie. Donc après un an d'occupation, c'est important de le signaler, une expulsion est ordonnée par les autorités, mais la résistance conjointe des militants écologistes rompus aux techniques non violentes d'opposition à l'intervention policière, donc notamment les techniques de suspension par des cordes à des trépieds ou au bâtiment de la bâtisse, mais aussi avec le soutien des habitants de la vallée et du quartier, et des militants de toute la ville, ça va entraîner, au bout de 3 jours de tension et d'affrontement, une décision de justice en faveur des squatteurs. Donc depuis lors, ce qui est très rare, entre parenthèses, depuis lors, le projet se poursuit malgré une nouvelle menace d'expulsion ordonnée l'année dernière par le tribunal administratif. Dans cette zone, à la lisière entre la ville et la montagne, aussi bien à quelques minutes du métro qu'au milieu de la forêt, le projet de Camp Maseu s'inscrit d'emblée au moyen de jardins communautaires partagés avec les habitants du quartier dans la dynamique locale de ce quartier, de Nubarnis, aux côtés du mouvement bessinal, mouvement des voisins, enfin, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, et en filiation directe avec les luttes collectives qui ont animé le quartier depuis les années 70. Ce quartier s'est bâti au cours du XXe siècle, et c'est un quartier qui va connaître une croissance très importante jusqu'à aujourd'hui, croissance due principalement à une migration intérieure à l'Espagne, essentiellement rurale. Durant les années 70, un fort mouvement d'habitants s'est développé, particulièrement pour garantir à la communauté les moyens d'une subsistance mise à mal par une politique urbanistique orientée vers la spéculation. Donc les habitants de Nubarnis doivent à ces luttes une part importante des équipements collectifs du quartier. C'est aussi dans ces années-là que les versants attenants de la montagne de Corcerola ont été investis par nombre d'habitants du quartier afin d'y aménager des jardins potagers, de manière illégale, jardins qui vont se retrouver au cœur du projet de Camp Maseu. Alors, je vais faire un point la montagne de Corcerola pour qu'on comprenne un peu dans quelle situation complexe se trouve le squat Camp Maseu. Donc la montagne de Corcerola, qui longe le littoral au sud de Barcelone et s'étend sur 8500 hectares, est une frontière physique qui limite l'expansion de la ville. Depuis la fin du 19e siècle, la protection de cet espace naturel a toujours été sous tension, les pouvoirs publics privilégiant en dernière instance l'accroissement urbain. Avec le renouveau démocratique et l'influence de l'Europe dans la prise en compte des nécessités de la préservation écologique, la question de la valeur environnementale de la zone de Corcerola s'est trouvée réactualisée, donnant lieu à une politique de gestion de cette zone reposant sur la délimitation d'un parc naturel. Alors malgré la reconnaissance légale du plan spécial d'aménagement et de protection du milieu naturel de Corcerola en 1987, et les forces de proposition citoyenne nées de mouvements d'habitants, l'opposition reste aujourd'hui encore vive entre logique d'urbanisation et nécessité de protection de l'espace, de même que les tensions entre usage traditionnel et usage marchand ou aussi ludique, entre planification institutionnelle et foisonnement des usages et des initiatives locales. L'entité publique qui est chargée de la gestion du fonctionnement du parc est le consortium du parc de Corcerola. Cette entité est guidée par une logique de représentativité, mais en pratique, des difficultés persistent à conjuguer efficacement les intérêts des municipalités et ceux des différents publics concernés. Par exemple, les institutions politiques refusent fréquemment de prendre en compte sérieusement les propositions issues les propositions issues des acteurs invités à participer à titre consultatif au conseil consultatif, le conseil constitue. Donc les associations écologistes, les associations de voisins, de chasseurs, les aficionados d'aéromodélisme, les groupes de marcheurs, les groupes de défense du patrimoine, les universitaires, etc. Le consortium de Collserola apparaît ainsi comme une arène dans laquelle se manifestent de multiples relations et conflits, conflits entre les 9 mairies concernées par la zone du parc, les entités supralocales, les partis politiques, les administrations et les citoyens. Tout ça sur fond de perceptions différenciées de la participation, bien évidemment. Aussi de la préservation de l'environnement et de la présence et de l'intervention humaine dans le parc. Les derniers conflits en date opposent plus directement la municipalité de Barcelone, qui porte des projets d'urbanisation et de construction d'infrastructures, et des groupes d'habitants mobilisés pour la préservation du territoire. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur cette notion de préservation du territoire, mais il me semble que la suite de l'exposé permettra de le donner à voir. Donc, mobilisés pour la préservation du territoire, mais du milieu naturel, du patrimoine, des usages traditionnels, notamment l'agriculture, le pastorat, et des nouveaux usages ludiques, le cyclisme, la marche, etc. Donc, depuis 2001, une grande partie de ces mouvements sociaux opposés aux agissements des administrations se sont regroupés au sein d'une entité qui s'appelle la Plateforme civique de la défense de Collserola. La plateforme participe au consortium en vue de dénoncer les agressions subies par l'espace naturel et en vue de réclamer une meilleure protection légale. Depuis sa création, elle s'est montrée très critique vis-à-vis des administrations, en particulier sur l'usage intéressé du terme de participation et l'omission, encore une fois, de toutes les propositions émanant de la société civile. De son côté, elle a organisé des actions visant à permettre un autre type de participation, fondée sur une mise en pratique, comme dans le cas de la marche pour la défense de Collserola, réalisée en avril 2008, sur laquelle on pourrait revenir au moment de la discussion, si vous le souhaitez. Donc, Collserola apparaît dans l'enquête comme une réalité hautement complexe, dans laquelle la mise en place d'une gouvernance locale et écologique ne va pas de soi. La création et l'activité contestataire de la plateforme, ses tentatives pour déborder l'instance officielle du consortium et du conseil consultatif, indiquent plus encore que le caractère controversé de cette gouvernance, la force de proposition émanant d'une constellation hétéroclite, hein, puisque la plateforme regroupe plus de 60 associations différentes. Le collectif de Camaseo est associé à cette plateforme civique qui met en cause le cadre du consortium, le déborde par ses formes et la conflictualité inhérente à l'illégalité de son statut, hein, le statut de squat. Mais il s'y rapporte, non pas comme à une référence incontournable, mais plutôt comme à une instance avec laquelle il faut composer. Un bon exemple pour documenter cela est lié à l'actualité très récente du parc de Collserola, reconnu donc parc naturel depuis octobre 2010. Un des enjeux relatifs à la constitution du parc étant sa délimitation. Quelles frontières établir? Faut-il suivre celles des municipalités, les frontières géographiques, naturelles, etc. Un appel à projet a été lancé par la mairie de Barcelone sous le nom de 16 portes pour le parc de Collserola, visant à concevoir ces zones aux limites de la ville et de la campagne. Donc si le collectif de Camaseo, sur lequel on va mettre la focale maintenant, s'est largement opposé à ce projet et aux modalités de participation à l'œuvre, notamment en publiant en association avec la plateforme un manifeste contre les 16 portes, il n'en est pas resté sur le seul plan de la critique, puisqu'il a proposé, avec la plateforme, un pré-projet pour la porte de Canieles, la porte qui est concernée par... Enfin, qui est concerné du fait de la position du squat dans le parc. Plus loin, la plateforme et Camaseo défendent la mise en place du plan spécial sur la protection du milieu naturel et la définition des usages du parc, qui aurait dû, en accord avec le décret du 19 octobre 2010, précéder toute planification urbanistique. Ainsi, la critique des formes de gouvernance écologique peut tout à fait se trouver en accord avec les dispositions légales visant la protection du milieu naturel. Et si la critique du collectif de Kamalzeu prend pour objet la dissociation entre durabilité et croissance économique faite par les acteurs institutionnels et particulièrement par la mairie de Barcelone, elle ne prétend pas énoncer cette critique depuis une position de surplomb analytique. L'environnement ne se constitue pas pour eux comme un vis-à-vis qu'il s'agirait de maîtriser à distance, mais plutôt comme une situation locale et singulière, inséparable d'usages, eux aussi, locaux et singuliers. Dès lors, nous pouvons dire que sous le motif de la critique, Kamalzeu propose moins une forme de dénonciation ou de recul qu'une mise en œuvre concrète de cette critique. Et je vais laisser la parole à Amandine pour la suite.
Nous avons donc vu comment la création... nous avons vu comment la création et l'action de la plateforme introduisaient du jeu par rapport aux formes verticales de gouvernement dans la montagne de Collserola. Nous voudrions à présent montrer comment Kamalzeu permet, de par sa qualité de lieu de vie, à savoir une maison et ses entours aménagés, de prolonger ses déplacements en redéfinissant les êtres en présence et leur manière de s'attacher. Pour ce faire, nous mettrons la focale dans un premier temps sur Kamalzeu comme lieu d'expérimentation en prise avec son environnement, puis sur les manières dont Kamalzeu redéfinit les termes d'un gouvernement de soi. Donc, comme Rémi l'a dit, Kamalzeu, c'est une très vieille maison paysanne. Ça a aussi été une ancienne léproserie qui a été abandonnée pendant plus de 50 ans et dont les entours ont été laissés en jachère. Donc, dès son arrivée en 2001, le collectif d'occupants travaille à la reconversion du lieu, non pas tant pour constituer un îlot, un espace de préservation immaculée de la vallée, comme ils disent, mais plutôt un lieu habitable au sens propre, c'est-à-dire qui fait avec ceux qui s'y trouvent. Pour citer un extrait d'un texte qui a été écrit par le collectif, « La vallée de Kamalzeu est un ensemble de bois, de ruisseaux, de champs, d'étangs, de pylônes haute tension, de routes, de chemins de terre et de bâtiments qui occupent un total de 35 acres de sol qualifiés comme équipement dans les limites du parc de Collserola et de la propriété de l'hôpital de Saint-Paul. Le projet ne vise donc pas un retour à une époque antérieure, d'avant la civilisation et les voies de communication. Au contraire, rendre Kamalzeu habitable, c'est faire avec ceux qui s'y trouvent, c'est-à-dire aussi bien les pylônes électriques que les ruisseaux et les bois. Et si les pylônes finissent par être évoqués négativement, c'est d'abord parce que certains se trouvent être trop près des maisons et qu'il y a des risques d'incendie, que les champs électromagnétiques qu'ils dégagent sont nuisibles aux oiseaux. Et donc, proposition est faite, proposition qui rejoint la ligne défendue par les municipalités qui sont concernées par le parc, de les enfouir sous terre. Autrement dit, il s'agit bien de faire avec, tout en veillant à ce que les habitations et les oiseaux puissent eux aussi en être sans risquer leur vie. Mais faire avec ceux qui se trouvent là, c'est aussi faire avec les habitants du quartier, c'est-à-dire ceux qui se trouvent en face de Kamalzeu, de l'autre côté de la route de bitume, dans le quartier de Nubaris, dans la ville de Barcelone. Les habitants de Kamalzeu ont souhaité très vite, comme on l'a dit, ouvrir leur espace à des voisins du quartier pour qu'ils puissent participer à la mise en place de jardins collectifs partagés. Pour cela, il a fallu s'ajuster aux manières de jardiner de ses voisins, car ces derniers, bien loin de partager d'emblée le désir de jardin collectif, ont plutôt fait valoir leur désir de créer des parcelles individualisées. Donc face à cela, il n'a pas été question pour les habitants de Kamalzeu d'imposer une normativité de l'usage, mais plutôt de faire de la place à la manière propre par laquelle les voisins se sont attachés au lieu. Ce sont alors les détails d'agencement de l'espace qui ont été discutés, la taille des barrières par exemple, la hauteur, entourant les parcelles par exemple, afin que les usagers puissent communiquer facilement, puissent garder un contact avec la dimension collective de l'espace. Mais faire avec ce qui se trouve là, c'est aussi faire avec des agents de l'État, par exemple les gardes forestiers et leur savoir-faire. Donc là, je citerai encore un petit extrait d'un texte qui a été écrit par le collectif. Notre défense des écosystèmes ne cherche pas la préservation immaculée de la vallée comme un musée au milieu d'une mer d'asphalte, mais sa gestion agroforestière. Parce que ce qui est déjà là doit nous prémunir de toute tentative d'ajouter du ciment dans la vallée. Cela signifie également auto-organiser la gestion de la forêt et les broussailles. Cela peut être fait en nous mettant d'accord sur les techniques du parc. Cette gestion diminue les risques d'incendie et fournit du combustible pour les projets dans la vallée. Donc, c'est bien en ce sens-là que les habitants de Kamazéou contestent la qualité muséale de leur site et du parc. Donc, une des spécificités de Kamazéou tient à la... Donc là, je coupe un petit peu. Tient à la continuité qui est tenue entre une manière d'habiter la vallée et une manière d'habiter les corps. Donc la définition d'un gouvernement de la nature, de la vallée, différent de celui qui dessine les administrations, s'accompagne ainsi de formes d'expérimentation, de gouvernement de soi et des corps. On pense ici en particulier aux activités et ateliers qui sont proposés par le centre social qui est organisé à Kamazéou, organise tout un tas d'ateliers et qui rassemble autant des ateliers de yoga, de danse, de théâtre, des discussions sur la sexualité, sur l'écologie, mais aussi des ateliers de sécurisation des données informatiques sur Internet, etc., tout un tas de choses. Donc on voit comment les interactions, elles sont aussi précédées d'une promenade dans les lieux. C'est une visite qui prend sens. Qui prend un sens particulier lorsqu'elle est liée à des ateliers qui prennent pour objet des techniques du corps et de soins. Donc il s'agit ici tout à la fois d'inventer ou de se réapproprier des savoirs relatifs au corps, de partager collectivement ces savoirs, sans pour autant dissocier ces circulations de là où elles ont lieu. Donc pour conclure, mais on pourra de toute façon revenir ensuite dans la discussion sur les éléments que j'ai été amenée à couper. Donc Kamazéou se définit comme un lieu qui ne relève pas d'une catégorie définie une fois pour toutes et on pourrait dire au contraire qu'il cultive l'ambivalence. Cette ambivalence, elle est perceptible dans la définition de leur situation spatiale puisque contre la spécification du parc de Collserola par la mairie de Barcelone en espace clé de l'ère métropolitaine, le collectif de Kamazéou propose plutôt de parler de rue urbain. L'adjectif « urbain » est utilisé par le collectif pour désigner tous les usages possibles de la vallée, la gestion agroforestière, la culture horticole, la préservation de la biodiversité, les techniques d'irrigation des sols, mais aussi tout ce qui lie ces usages aux habitants du quartier de Nubaris et de Barcelone. Donc Kamazéou brouille les places en refusant finalement de trancher entre les entités susceptibles de peupler la vallée, si bien qu'ils parviennent dans leur action à faire cohabiter tout aussi bien des habitants, des espèces animales ou végétales que les pylônes électriques. Donc, en guise de conclusion et surtout d'ouverture, on aimerait formuler une hypothèse un peu qu'on souhaiterait développer par la suite dans ce travail-là et mettre à l'épreuve, à savoir que si Kamazéou n'est pas un espace confiné, un laboratoire replié sur lui-même, une communauté fermée, que ses habitants travailleraient ensuite à déconfiner en s'ouvrant aux autres habitants ou espèces vivant là, mais plutôt un lieu qui se définit d'emblée par ses associations surprenantes, jamais définies ni par avance ni une fois pour toutes, on peut faire l'hypothèse que le parc lui-même se trouve redéfini par là en lieu habitable, c'est-à-dire un espace indissocié de ses usages. Surtout, et c'est là le caractère hypothétique de cette proposition, il y aurait là quelque chose qui rejouerait les communs, au sens que ce terme peut avoir dans le milieu rural, bien loin que de redéfinir la terre en propriété, y compris en propriété d'usage, les usages développés par les habitants de Kamazéou et les êtres qui lui sont associés, voisins, oiseaux, routes, boudronnés, jardins, etc., sont inappropriables, parce que de l'ordre de ces communs, autrement dit, de ces terres rurales qui n'appartiennent à personne, parce qu'elles servent aussi bien de lieux d'accès et de passage, de chemins principaux ou secondaires, que de pare-feux qui préservent des risques d'incendie. Mais les communs sont aussi du même coup ces espaces dont ceux qui sont sans terre peuvent user pour glaner, cultiver la terre, obtenir du fourrage pour leurs bêtes. Ce faisant, il n'est pas question, une fois encore, ni pour nous, ni pour Kamazéou, de mythifier un état ancien, celui de l'usage de ces communs, mais bien d'envisager la manière dont ces dimensions se trouvent convoquées à nouveau aujourd'hui dans la redéfinition du territoire comme habitable.
Merci.